Je m'insère quelques secondes dans cet épisode pour vous dire que cette semaine, on ouvre notre Odyssée de la fertilité, un atelier en vidéo pour vous donner plein de clés pour reprendre en main votre fertilité. C'est gratuit, vous avez 3 épisodes et si vous voulez la visionner seule ou à deux, je vous mets le lien pour la recevoir en description.
Tu sais qu'une des principales causes fonctionnelles derrière le SOPK, c'est l'excès d'insuline. Trop d'insuline augmente l'imprégnation androgénique par plusieurs mécanismes, notamment en baissant la SHBG. Trop souvent, je vois des personnes dire « Ah bah tiens, j'ai fait une biologie, effectivement, je vois la biologie qui a trop d'insuline, bingo, je vais traiter l'hyperinsulinisme de ma patiente et tout rentrera dans l'ordre dans le meilleur des mondes. » Mais non, parce que c'est très rare d'avoir un SOPK monofactoriel, c'est souvent multifactoriel et ça ira mieux quand on aura tout pris en charge. Et de deux, l'hyperinsulinisme peut être conséquent d'une autre dysfonction plus profonde, notamment l'hypothyroïdie, une thyroïde qui tourne au ralenti. Ça génère une augmentation de la glycémie très souvent, qui va à son tour entraîner une augmentation de l'insuline, grande cause d'hyperandrogénie. Si on veut traiter l'hyperinsulinisme alors qu'on n'a pas vu que derrière l'hyperinsulinisme à son origine, il y a une hypothyroïdie, on éviterait maltraitant quand même.
Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme ? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Saint-Dicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seule ou avec l'appui d'experts et d'experts passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émanciper et placez l'épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est passionnante, vous allez voir, qui s'appelle Guénaëlle Abbé-Guillé, qui est vraiment une référence dans tout ce qui est hormonaux, fonctionnement hormonal du corps, donc du cycle évidemment, mais pas que, toutes ces hormones qui interagissent pour notre santé globale. Et le sujet que je voulais aborder avec elle, c'est le SOPK. Vous savez, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est assez bien connu et diagnostiqué d'un point de vue médical, mais où en fait, il y a plein de choses en dessous de la couche de base des critères pour le diagnostiquer qu'on connaît moins et plein de petites artilleries en fait hormonales en sous-marin que Guénaëlle nous a décortiqué et vous allez voir, c'est passionnant. Alors, c'est un épisode peut-être un peu plus technique que d'habitude qui, je sais, intéressera beaucoup les pros parmi vous, mais aussi toutes celles et ceux qui aiment comprendre. Donc installez-vous confortablement parce que vous avez passé, je pense, un très bon moment et surtout apprendre plein de choses. Salut Guénaëlle, merci de passer ce moment avec nous. On va parler SOPK avec toi, syndrome des ovaires polykystiques. Toi, à la base, t'es kiné et aujourd'hui, t'es formatrice vraiment spécialisée en hormonologie. Je te disais avant, quand on discutait, que j'entends beaucoup ton nom chez tous les gens qui s'intéressent à ces sujets parce que t'en formes beaucoup. Est-ce que, avant qu'on rentre sur le sujet du SOPK, tu peux, s'il te plaît, te présenter ?
Merci Lorraine et merci pour cette invitation et surtout pour ce choix de sujet qui est celui, je pense, qui m'anime le plus, que je préfère. Comme tu disais, à la base, je suis kiné de profession. Donc, ça fait maintenant pas mal de temps que j'ai arrêté d'exercer cette profession depuis que j'ai rencontré tout ce qui est micronutrition, santé fonctionnelle, médecine fonctionnelle, qui m'ont encore plus passionnée que mon métier de kiné qui me plaisait à la base. Et donc j'ai plongé dans ces formations passionnantes et j'ai donc exercé pas mal aussi en tant que praticien du coup en santé fonctionnelle. Au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un grand oublié quand même dans tout ce qui est santé fonctionnelle, c'est l'hormonologie. Donc j'ai voulu m'y former et là, je me suis retrouvée dans un monde où soit il y avait que des choses très médicalisées qui tournaient autour des maladies, donc qui est d'ailleurs plutôt ouvert aux médecins, mais la maladie est prise en charge par des médecins et c'est très bien et... ou alors des choses très superficielles où on n'approfondit pas avec des recettes magiques qui, comme on le sait, ne fonctionnent pas. Donc, je me suis dit, mais il n'y a rien vraiment d'existant. Donc, je me suis dit, écoute, je vais créer cette formation. Et là, je suis partie dans une aventure absolument…
longue.
Elle est longue. J'ai créé une formation, effectivement, d'hormono dont je suis quand même toujours encore assez fière. Et puis une formation de fertilité, donc ils m'ont demandé un gros travail. Aujourd'hui, c'est que ça représente la majeure partie de mon activité professionnelle, du coup, de former les professionnels de santé sur notamment ces deux grandes thématiques qui me passionnent.
Ouais. Voilà. Hyper chouette. Oui. Et donc toi, tu as une vision que moi, je trouve passionnante, justement d'aller vraiment détricoter tout ce qui se passe à l'intérieur du corps d'un point de vue hormonal. Et c'est particulièrement intéressant sur la SOPK, où il y a une définition peut-être un peu bateau et où on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais avant que je te demande de nous expliquer ça, il faut que je te pose ma question rituelle. C'est en quoi, toi, Guénaëlle, tu sens que tu participes à l'émancipation des femmes ?
Alors, je pense et j'espère en tout cas, enfin en tout cas c'est probablement une de mes missions de vie, peut-être la principale, c'est de pouvoir donner accès à l'information aux femmes, notamment via les professionnels de santé qui à leur tour vont transmettre ces messages, les informer pour savoir comment leur corps fonctionne, pour faire des choix libres et éclairés. C'est vrai que j'ai souvent des femmes qui pensent avoir choisi un traitement, qui pensent avoir fait le choix, je ne sais pas, de prendre une pilule contraceptive par exemple, parce qu'elles ont dit « ah oui, c'est ça que je veux », ou parfois elles sont même venues chez leur médecin avec cette demande. Et finalement, c'était parfois ignorer le fonctionnement de leur corps. Et quand on ne comprend pas comment il fonctionne, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas bien. Et si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas bien, on ne peut pas faire le choix d'un traitement puisqu'on n'en connaît pas les causes. Donc, c'est ça ma mission, c'est faire comprendre à la femme à quel point son corps peut super bien fonctionner et qu'est-ce que c'est un véritable cadeau quand son corps fonctionne bien. Et puis, si ça ne fonctionne pas bien, malheureusement, c'est difficile effectivement à vivre et on peut être tenté de prendre des solutions magiques pour pouvoir mettre un fin à cette souffrance. Mais qu'il y a aussi d'autres choses qui existent si on prend le temps de comprendre ce qui se passe et qu'on peut du coup apporter une solution beaucoup plus fonctionnelle et respectueuse de la physiologie pour retrouver les merveilles, notamment de son cycle féminin.
Ouais, on a une passion commune là-dessus, c'est chouette. Donc aujourd'hui, on va parler plus du SOPK. Est-ce que peut-être, toi, tu pourrais déjà nous donner, alors si ça te va, la définition un peu classique du SOPK et après peut-être ta définition à toi.
Alors, la définition classique, c'est un trouble endocrinien, un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on n'est pas sur une maladie, on est sur un syndrome, donc un ensemble de symptômes qui est caractérisé par des troubles du cycle avec des cycles longs ou voire inexistants et souvent des signes d'hyperandrogénie, donc d'excès d'hormones mâles. En gros, comment est-ce qu'on va définir le SOPK dans la définition classique?
Et peut-être ce qu'on peut dire, c'est que, je t'interromps, je suis désolée, on parle des critères de Rotterdam qui ont été les critères établis par un consensus médical pour diagnostiquer un SOPK, qui sont justement les troubles du cycle, des signes d'hyperandrogénie ou d'hyperandrogénie clinique et un nombre trop élevé de follicules à l'échographie dans les ovaires. Ça, c'est le consensus qui fait qu'on peut diagnostiquer un SOPK, par exemple, sans hyperandrogénie, comme on peut diagnostiquer un SOPK sans trop de follicules dans les ovaires, puisque pour le diagnostiquer, il faut au moins 2 sur 3 critères. Et c'est là où je trouve intéressant d'avoir ton point de vue. Toi, tu vas peut-être un peu plus loin que ça, parce que pour toi, on ne peut pas forcément avoir de SOPK si on n'a que 2 sur 3, ou en tout cas, il faut au moins 1 de tout cela.
Oui, tout à fait. Effectivement, je ne suis pas totalement en accord avec les critères de Rotterdam, bien que je les comprends parce que cette notion d'hyperandrogénie est complexe à appréhender. Mais vu que le mécanisme à l'origine des troubles ovulatoires dans le SOPK, c'est l'excès d'androgène, ou du moins, c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose un peu complexe. Ce n'est pas vraiment l'excès quantitatif d'androgène, mais l'excès de ce que je vais appeler régulièrement dans cette émission, un excès d'imprégnation androgénique. C'est-à-dire que les androgènes, qu'ils soient en excès ou non, ils s'expriment trop chez la femme en question. Et c'est ce mécanisme qui fait que les follicules vont se bousculer dans les ovaires et qu'il y aura des troubles du cycle. Donc, de ce constat, il est impossible d'avoir un SOPK s'il n'y a pas d'augmentation de l'imprégnation androgénique. Il peut ne pas y avoir trop d'androgènes, c'est possible. Il y a d'autres facteurs qui vont contribuer à faire en sorte qu'un nombre parfois normal d'androgènes va être excessif pour une femme en question parce qu'ils vont se manifester excessivement. Donc, moi, je pense que le critère d'augmentation de l'imprégnation androgénique est indispensable. Toutefois aussi que ces critères, que ce soit les troubles du cycle, donc cycle trop long ou inexistant, et l'augmentation de l'imprégnation androgénique, sont bien précisés dans les critères de Rotterdam comme après avoir exclu les autres causes de troubles du cycle ou d'augmentation de l'imprégnation androgénique. Et ça, c'est très important. Et beaucoup de femmes sont diagnostiquées SOPK alors qu'elles ne sont pas. Elles ont d'autres troubles qui vont soit augmenter leur imprégnation androgénique, qui n'est pas du SOPK, ou soit d'autres troubles qui vont bloquer leur ovulation alors que ce n'est pas un SOPK. Et ça, on en rencontre régulièrement quand même dans notre activité professionnelle. Alors, peut-être qu'on va juste rappeler qu'effectivement, le troisième critère, c'est, comme tu disais, l'échographie avec des ovaires soit trop gros, soit trop de follicules. Et maintenant qu'il y a un nouveau marqueur qui peut remplacer potentiellement l'imagerie, c'est le dosage de l'AMH, l'hormone antinéphrine, qui est trop élevée. Mais donc, pour moi, il faut vraiment obligatoirement l'augmentation de l'imprégnation androgénique plus un des deux autres. Voilà.
Ouais, c'est ça. C'est que ce n'est pas 2 sur 3, n'importe lesquels, 2. C'est forcément les androgènes et soit les cycles irréguliers, soit les ovaires multifolliculaires à l'échographie.
Ouais.
Mais tu ne peux pas avoir juste des ovaires multifolliculaires et des cycles irréguliers. S'il y a 0 sujet androgène, a priori, on n'est pas vraiment sur un SOPK.
Pas pour moi. Mais c'est difficile à mettre en évidence, cette notion. Donc, je comprends quand même les critères de Rotterdam.
On parle depuis tout à l'heure d'hormones androgènes. Est-ce que peut-être on peut se faire une parenthèse? Est-ce que tu nous expliques ce que c'est ces hormones androgènes?
Eh bien oui. Donc, les androgènes, ce sont les hormones mâles, les hormones masculinisantes. Donc, vous avez tous, et on entend toujours parler de la testostérone. On l'assimile beaucoup à l'homme, mais il faut savoir que nous, les femmes aussi, on a de la testostérone et que c'est génial. C'est super d'avoir la testostérone, ça permet d'avoir plus confiance en soi, d'être plus en forme, plus dynamique, au niveau cognitif, que ça fonctionne un peu plus rapidement aussi. Ça améliore la libido et d'ailleurs, c'est co-responsable du pic de libido avant l'ovulation, avec le pic d'ovulation qui va en même temps. Mais on a aussi d'autres androgènes, chez l'homme comme chez la femme, notamment la DHEA, qui est souvent, on en parle souvent comme l'hormone de la jeunesse éternelle, et malheureusement, un peu à cause de cette vision, elle a parfois un peu mauvaise réputation, hein, comme hormone un peu bling-bling, mais c'est une superbe hormone également, qui est une pro-hormone, comme l'androstendione, une pro-hormone parce qu'elles n'ont pas de récepteurs, contrairement à la testostérone. Et on a une autre hormone androgène qui est extrêmement puissante, bien plus puissante que la testostérone. On peut l'appeler un peu la super testo, c'est la DHT pour dihydrotestostérone. Elle se fixe très bien sur les récepteurs androgènes et elle augmente beaucoup les critères un peu virilisants.
Ouais. Oui, parce que ces hormones plutôt mâles, parce qu'elles sont en plus grande quantité chez les hommes, elles entraînent des symptômes quand elles sont en excès chez les femmes d'hyperandrogénie. Et là, peut-être qu'on peut expliquer un peu ce que c'est ces symptômes typiques parfois du SOPK.
D'accord. Très bien. Donc effectivement, on disait que c'était bien d'en avoir, mais quand on en a trop, c'est le bordel. Et qu'est-ce qui va se passer? Des plaintes que peuvent avoir les femmes, c'est de l'acné, qui est en grande partie androgénique, surtout s'il y a une variation en fonction du cycle. De la peau grasse, hein, c'est pour ça qu'il y a de l'acné, c'est qu'il y a des sécrétions excessives de sébum. Un développement de pilosité excessive dans des endroits non habituels chez la femme. Ça peut être la lèvre, ça peut être le menton, ça peut être l'arrière des cuisses, le nombril, les mamelons, etc. Et puis des cycles longs, des cycles inexistants, ça peut également venir de trop d'androgènes.
Chute de cheveux aussi?
Oui. Effectivement, alors avec un qui se précédera d'un affinement du cheveu où on verra un peu le crâne en transparence avec une chute du cheveu qu'on va du coup distinguer un peu de la chute de cheveux d'autres causes. Hein, c'est vraiment typique effectivement de l'alopécie androgénique. Tout à fait.
Ouais. Ouais. Hyper intéressant. Par contre, tu parles d'imprégnation androgénique sans forcément d'excès d'hormones androgènes. Est-ce que déjà, ça veut dire qu'on peut ne pas le voir à la prise de sang et ou ne pas le voir cliniquement?
Exactement. Alors du coup… on le verra généralement cliniquement, mais parfois on cache bien les choses avec des stratégies, on va dire. Mais il y aura quand même des petits signes évocateurs, souvent au niveau de la clinique, ne serait-ce que le trouble du cycle. Mais en tout cas, la biologie, on peut passer à côté pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on dose pas tous les androgènes, ou soit parce qu'ils sont normaux, mais qu'il y a autre chose qui font qu'ils se manifestent excessivement. Donc d'abord, la notion de doser tous les androgènes. C'est parfois un peu difficile parce qu'il y en a plusieurs. Et généralement, hein, les personnes qui sont suivies, pour un SOPK, hein, tu en vois régulièrement, on voit dans les prises de sang un dosage de testostérone, un dosage de DHEA, un dosage d'androstendione, qui est également appelé delta-4-androstendione. Mais on se fiche un peu de la DHT, la dihydrotestostérone, qui n'est pas dosée pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que son dosage n'est pas fiable. Donc, on comprend. Mais par contre, il est quand même intéressant d'évaluer par la biologie, donc pas par un dosage de DHT, parce qu'on vient de dire que c'était pas fiable, mais par un dosage de…
Et pourquoi c'est pas fiable?
Parce que c'est très labile, ça bouge beaucoup.
Okay.
Donc, des fois, j'en vois des dosages de DHT, mais du coup, je les regarde pas vraiment.
Ouais, okay.
Et du coup, on va quand même se poser la question, si tous les autres androgènes sont bons et qu'il y a des signes d'hyperandrogénie, c'est potentiellement une des pistes à rechercher, peut-être qu'il y a trop de DHT. Et du coup, quand on va se poser cette question, vaudra mieux faire un dosage de ce qu'on appelle un métabolite de la DHT, donc c'est-à-dire une hormone qui découle de la DHT, hein, qui est sur la voie de l'élimination, de la dégradation de la DHT. C'est pas un dosage parfait, mais c'est bien plus informatif que la DHT. Donc, ça s'appelle l'androstendiol glucuronide, qui est plus rarement dans les analyses, mais bon, aussi, c'est pas encore un dosage parfait, mais c'est intéressant de le faire quand même.
Et donc, par voie urinaire?
Alors, plutôt par voie sanguine, même si par voie urinaire, on aura davantage le reflet de ce qui est produit en intracellulaire, par exemple pour l'alopécie androgénique. Mais un fonctionnement global, on va plutôt le faire par voie sanguine.
Ouais, ok. Et donc là, tu vois forcément quelque chose ou tu peux même ne rien voir.
On peut même voir tous ces hormones, encore une fois, totalement normales, même la DHT, enfin son métabolite, même parfois normal bas. Mais effectivement, il y a plein d'autres causes qui vont faire que malgré les androgènes en quantité optimale même, ils peuvent se manifester excessivement chez une femme. Et là, j'anticipe la prochaine question.
Mais vas-y, j'allais dire, explique-nous. On est tout ouïe.
Alors, il y a plusieurs causes à cela. Alors déjà, il faut savoir que chez l'homme comme chez la femme, ces hormones vont se manifester cliniquement en équilibre avec d'autres hormones, notamment avec nos œstrogènes et notre progestérone, nos hormones féminisantes. Les œstrogènes vont un peu contrebalancer les androgènes à une action opposée. Donc, si j'ai beaucoup d'androgènes et beaucoup d'œstrogènes, par exemple, à l'inverse, hein, tout peut bien aller. Aucun trouble du cycle, aucun SOPK, pas d'acné, etc. Mais c'est, dans d'autres situations, je peux avoir des androgènes normaux et des œstrogènes tellement bas que les androgènes vont prendre la dominance. Ouais. D'ailleurs, ça va faire aussi qu'il y aura souvent plus de récepteurs aux androgènes, donc ils vont surréagir aux androgènes. Donc, là, dans ce cas-là, la cause, ce n'est pas l'excès d'androgènes, mais c'est le manque d'œstrogènes.
Et qu'est-ce que c'est relatif, quoi.
Exactement, c'est relatif. Mm-hmm. Une hyperandrogénie relative, un déséquilibre en gros œstrogénique en dominant ces androgènes. Et souvent, on va se dire, ben, il y a un SOPK, de l'acné, je vais aller lutter contre les androgènes, je vais les mettre à terre, à tort, parce que le problème n'est pas là. Donc, cette pauvre femme qui a à la fois une hypo-œstrogénie, on va la mettre en plus en hypo-androgénie, donc elle pourra peut-être être encore plus déprimée, moins bien. Là, il faut agir la cause, d'où l'importance de cette enquête, c'est qu'il faudra dans ce cas-là, non pas réduire les androgènes, parce qu'ils sont parfaits chez elle, laissons-lui ça, mais il faudra booster les œstrogènes, chercher la cause de pourquoi il n'y a pas assez d'œstrogènes et les booster.
Ouais, ok.
Les causes.
Donc ça, c'est la première cause, ok.
Voilà, tout à fait. Une autre cause, on avait dit, autre hormone féminisante insuffisante, la progestérone. Mm-hmm. Et ça, c'est malheureusement très fréquent dans le SOPK, puisque la cause du manque de progestérone, c'est, je pense que toutes les personnes qui te suivent,
tout le monde sait.
Et donc, je vous entends dire en cœur la dysovulation. Ouais. Avec c'est ce qui se passe pour le SOPK, elles ovulent pas souvent ou pas du tout, donc elles ont pas souvent de la progestérone et rarement en quantité optimale, donc effectivement elles ont une progestérone trop basse. Or, la progestérone, c'est l'hormone la plus grande modulatrice à la baisse des androgènes. C'est celle qui va davantage moduler les androgènes et ce par plein de mécanismes différents. Ça va diminuer, je sais aussi, je t'écoute, donc je sais ce que tes auditeurs connaissent. Ils savent que l'ovulation, ça commence par un message du cerveau, vraiment par cette production de LH qui va déclencher l'ovulation. Eh bien, la progestérone baisse la LH. Et la LH, c'est aussi l'hormone qui entraîne une synthèse de testo au niveau des ovaires. Donc, si on manque de progestérone, ma LH sera plus élevée. Donc, ma LH va crier sur mes ovaires pour dire « vas-y, envoie de la testo ». Voilà, donc c'est un des mécanismes qui fait que la progestérone est modulatrice, mais il y en a d'autres. Hein. Un manque de progestérone, ça va aussi nous rendre plus sensibles aux androgènes au niveau des récepteurs et ça va favoriser la conversion vers la super testo. Donc, on aura la testo qui va en plus découler davantage vers la DHT, la super testo plus puissante, plus androgénique.
Ouais, donc tu n'auras pas forcément trop de testo si tu doses, mais par contre, tu auras beaucoup plus de super testo, DHT.
Super testo et plus sensible à la testo, même s'il n'y a pas trop de testo, effectivement, comme tu dis.
Ouais, ok.
Donc ça, c'est encore, du coup, la deuxième cause, on va dire, de j'ai un SOPK alors que je n'ai pas trop d'androgène.
Ouais.
Une cause possible, c'est une baisse de la synthèse du transporteur des androgènes. Ça devient un petit peu complexe. Mais effectivement, nos hormones sont des hormones stéroïdes fabriquées à partir de cholestérol. Donc, elles ne sont pas solubles dans l'eau, elles ne sont pas solubles dans le sang. Donc, elles doivent être prises en charge par des transporteurs, des sortes de petits camions qu'on a dans le sang qui vont permettre d'acheminer les hormones à un endroit. Mais la fraction des hormones qui sont véhiculées, qui sont transportées, elles ne sont pas utilisables par nos cellules. Donc, elles ne pourront pas nous déclencher des troubles du cycle de l'acné, etc. Mais donc, si j'ai une baisse de ce transporteur, qu'on appelle la SHBG, même s'il n'y a pas trop d'androgènes, il y en aura trop qui seront libérés, trop qui vont circuler sans transporteur. Donc, j'aurai une augmentation de la fraction libre, active, disponible pour mes cellules. Donc, toutes les causes de baisse de SHBG vont être des causes aussi de « j'ai un SOPK alors que je n'ai pas trop d'androgènes ».
Ouais.
Voilà.
Et ça, tu le verras en dosant quand même la fraction libre à la prise de sang ou même pas forcément?
Si, on peut la deviner effectivement par en faisant un dosage de testostérone libre. Mm-hmm. Moi, je préfère faire un dosage de testo total et du transporteur SHBG à part, même si on pourrait demander en plus un testo libre. Mais j'aime bien plutôt demander ces deux-là, parce que comme ça, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, je saurai si je dois travailler soit sur... Si la testo totale est trop haute, je vais chercher les causes d'augmentation de synthèse de testo. Ouais. Et si elle est bonne et que c'est une baisse de SHBG, j'irai chercher les causes et donc travailler sur les causes de baisse de synthèse de la SHBG. Donc, ça va déjà m'orienter dans mes stratégies de prise en charge et dans mes hypothèses.
Ouais, ok. Ouais. Hyper intéressant. Est-ce que c'était les trois points ou on en a un quatrième?
Il y en a d'autres. Il y a notamment tout ce qui va activer la 5-alpha-réductase, hein, cette enzyme qui va convertir la testo en super testo. Donc, on a commencé à en évoquer certains, mais il y a aussi le manque de zinc, par exemple, qui favorise ça.
Donc, le manque de zinc?
De zinc, oui, tout à fait.
Ouais. Ouais, ouais.
Le manque de progestérone, comme on a dit, et l'hyperprolactinémie. Et puis, il y a d'autres facteurs qui vont favoriser, mais on les a déjà un peu évoqués de manière transversale, qui vont favoriser une hypersensibilité des récepteurs aux androgènes. Donc, j'ai pas trop de testo, mais je suis hypersensible parce que mes récepteurs partent au quart de tour. Et pour ces causes, il y a l'inflammation et le manque de progestérone, encore celui-là. Donc, tu vois le cercle vicieux. J'ai trop d'androgènes, je disovule, j'ai encore plus d'androgènes, ça aggrave mon SOPK.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, l'un entraîne l'autre indéfiniment, quoi.
Et ça fait un cercle.
Ouais, mais ce que j'entends en t'écoutant, et je trouve ça passionnant, c'est qu'en fait, tu peux avoir de la biologie, un bilan sanguin qui a l'air normal, même cliniquement, pas avoir de symptômes flagrants d'hyperandrogynie, mais qu'en fait, à l'intérieur, tous ces petits acteurs-là qui se transportent, qui s'emmènent, qui se répandent, qui se convertissent, que là, ça se passe pas bien. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas formé en hormonologie, en médecine fonctionnelle, tout ça, d'aller regarder tous ces gens-là, quoi.
Exactement. C'est pas des choses très connues, déjà. C'est des choses très fines et qui me permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on trouvera jamais de traitement, désolé, hein. Mais on trouvera jamais de traitement.
Ouais, j'allais venir sur cette question, tu me la spoil.
Ouais. Bah vas-y, pose-la moi si tu veux.
Non, mais ça allait venir peut-être plus tard dans notre échange. Mais oui, j'imagine que si, toi, quand tu dis, moi, je vais chercher la SHBG, etc., c'est qu'en fait, il y a quand même des pistes pour essayer de rééquilibrer tout ça. C'est juste qu'il n'y a pas un traitement miracle du SOPK où tu prends le cachet SOPKX et tu vas mieux le lendemain. Mais par contre, tu peux essayer d'aller tirer les bonnes ficelles.
Exactement. S'il faut vraiment le boulot du praticien en santé fonctionnelle, ça va vraiment être de mener une enquête complète à travers les signes cliniques. Et en fonction des signes cliniques, on ira préciser par la biologie, vraiment chercher les causes du SOPK propre à chaque patiente pour agir sur chaque cause profonde. Donc, en fait, finalement, on pourra avoir 100 patientes atteintes d'un SOPK qui est 100 traitements différents. Donc, vraiment, je le dis souvent, on ne prend pas en charge le SOPK, on prend en charge une femme avec son SOPK, ce qui est une vision très différente. C'est plus compliqué, mais ça marche beaucoup mieux et ça fonctionne comme ça, quoi.
Ouais. Alors toi, tu dis 100, parfois on lit, et je sais qu'on la connaît toutes les deux, enfin on la lit toutes les deux, Lara Bryden, qui est une néo-zélandaise qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Elle a dit qu'il y a 4 types de SOPK, SOPK lié au cortisol, le SOPK lié au post-pilule, etc. Toi, tu dis 100, enfin, peut-être même 1000 du coup, propre à chaque femme. Mais qu'est-ce que tu penses de ces espèces de catégories, entre guillemets, de SOPK?
Alors, c'est déjà très intéressant. Ça permet d'ouvrir des nouveaux horizons et de comprendre que ce n'est pas si simple que ce qu'on nous fait croire. Et puis, Lara Bryden a fait des recherches formidables. Et puis, elle sait bien les transmettre et beaucoup, beaucoup de respect pour tout ce qu'elle fait. C'est super. Après, il ne faudrait pas être enfermé dans un type de SOPK parce que souvent, en fait, quand quelque chose dysfonctionne, il y a d'autres choses qui dysfonctionnent. Et donc, par exemple, dans les 4 SOPK qu'elle décrit, je crois qu'il y a le SOPK insulino-résistant, c'est ça? Je crois qu'il y a
inflammation. Ouais, il y a cortisol insulino-résistant post-pilule et celui, il est lié aux androgènes.
Au surrénal.
Non. Ouais, surrénal, ouais, peut-être.
Quel surrénalien?
En tout cas, un qui a des symptômes d'hyperandrogénie, peut-être, là où les autres n'en ont pas. Mais j'irai vérifier, je mettrai en dessous un lien pour qu'on ne dise pas de bêtises et que...
D'accord.
Pour mettre les bons.
Clairement, j'avais lu son livre, donc j'ai un peu oublié cette catégorisation qu'elle peut faire, qui est très intéressante. Mais ce qu'il faudrait pas, c'est l'erreur que je vois des fois chez les praticiens, c'est que tu sais qu'une des principales causes fonctionnelles derrière le SOPK, c'est l'excès d'insuline, trop d'insuline. augmente l'imprégnation androgénique par plusieurs mécanismes, notamment en baissant la SHBG. J'ai oublié de le citer quand même, alors que c'est un des principaux. Mais c'est bien. Ouais. Vu qu'on a tendance à l'avoir trop en tête, si je l'oublie, ça permettra de voir qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est un grand facteur d'hyperandrogénie, l'hyperinsulinisme. Et trop souvent, je vois des personnes dire « Ah bah tiens, j'ai fait une biologie, effectivement, je vois la biologie qui a trop d'insuline, bingo, je vais traiter l'hyperinsulinisme de ma patiente et tout rentrera dans l'ordre, dans le meilleur des mondes. » Mais non, parce que c'est très rare d'avoir un SOPK monofactoriel. Donc, certainement qu'il y a trop d'insuline si la biologie va dans ce sens et la clinique, mais il y a probablement plein d'autres facteurs qui disent, ou un ou deux, peut-être pas plein, mais c'est souvent multifactoriel et ça ira mieux quand on aura tout pris en charge, d'une. Ouais. Et de deux, l'hyperinsulinisme peut être conséquent d'une autre dysfonction plus profonde, notamment l'hypothyroïdie, hein, une thyroïde qui tourne au ralenti. Ça génère une augmentation de la glycémie très souvent, qui va à son tour entraîner une augmentation de l'insuline, grande cause d'hyperandrogénie. Et si on veut traiter l'hyperinsulinisme alors qu'on n'a pas vu que derrière l'hyperinsulinisme à son origine, il y a une hypothyroïdie, eh ben on est vite fait maltraitant quand même. Parce qu'on va donner des restrictions caloriques, des restrictions de glucides assez fortes alors que le métabolisme il tourne au ralenti. Donc, on va même aggraver potentiellement le métabolisme. On va se dire, au secours, et si on ne me donne plus rien à manger, je me mets en mode veille. Donc, je vais encore plus diminuer mes hormones thyroïdiennes. Et en plus de ça, en plus de ne pas donner des conseils les plus adaptés, c'est bienveillant, hein, c'est pas si, voilà, c'est chercher quand même toujours la thyroïde. Et parce que du coup, l'hypothyroïdie est une cause à part entière d'hyperandrogénie en plus par plein de mécanismes différents. Donc, il faudra en plus la traiter pour réguler l'insuline, mais aussi parce que c'est une cause à part entière d'hyperandrogénie.
Ouais, hyper intéressant. La thyroïde, je pense qu'on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Mais je voudrais revenir quand tu parles d'insuline parce que, en tout cas, dans la prise en charge du SOPK, très souvent, c'est ça qu'on va viser beaucoup, où tu as donné de la metformine, etc., du mionositol, etc., donc très lié au problème d'insuline. Est-ce que tu pourrais quand même nous expliquer un peu en détail, c'est quoi le lien entre SOPK et insuline? Donc, tu as commencé à l'expliquer, mais peut-être vraiment en faisant un focus sur ce sujet-là.
Ah oui, très intéressant. Rappelons déjà qu'il y a à peu près 70% des femmes SOPK qui sont résistantes à l'insuline. Donc, ils se retrouvent dans des situations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour maintenir une glycémie correcte, parce que souvent, elles ont une glycémie correcte, normale, haute ou strictement normale, elles doivent sécréter plus d'insuline que d'autres pour maintenir leur glycémie correcte. Donc, elles se retrouvent avec des taux d'insuline une fois et demie, deux fois, trois fois, voire quatre fois supérieurs à d'autres. Et l'insuline va augmenter leurs androgènes. Comment? Du coup, par plusieurs mécanismes. D'une part, ça va augmenter la LH. La LH, donc commande centrale de la testo. Donc, je vais produire plus de testo par mes ovaires parce que la LH sera plus élevée, ce qui est souvent le cas dans la SOPK. Deuxièmement, au niveau des ovaires, on a des récepteurs à l'insuline. Quand l'insuline va sur ces récepteurs, ça va ordonner commander une synthèse de testo. Donc, ça augmente la commande centrale et ça augmente la synthèse directement à la source.
Ouais, ça agit, ça rentre par la porte et la fenêtre, quoi.
Exactement. Mmh. Et troisième cause, l'insuline va baisser le transporteur, justement, aussi, la SHBG. Donc, ça va augmenter la fraction libre.
Ok.
Et petite chose intéressante, quand même, Lorraine, aussi, c'est que beaucoup de femmes SOPK ont un taux d'insuline normal. Mais malgré cela, elles peuvent quand même produire trop de testo à cause de leur insuline. Oh. Donc, dans les 30% ah oui. qui sont normo-insuliniques, parfois leur insuline leur pose quand même problème.
Et pourquoi?
Parce qu'il y a des polymorphismes génétiques, donc des particularités génétiques chez certaines de ces femmes, hein, pas chez toutes les femmes SOPK, qui font que malgré leur résistance ou pas à l'insuline globale, donc périphérique, hein, générale, elles peuvent avoir des récepteurs hypersensibles à l'insuline uniquement au niveau des ovaires. Or, ces récepteurs ovariens commandent de la testo. Donc, des fois, avec des taux d'insuline normales, elles se trouvent quand même à produire trop de testo. Donc, ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il faut être plus exigeante avec leur sucre, qu'elles doivent avoir des taux d'insuline pas non plus trop bas, hein, parce que ça va déclencher peut-être des anovulations encore appelées aménorrhées centrales. Et là, on aura fait pire. Hein. Ça, c'est des choses qui arrivent. On prend en charge un SOPK, on lui déclenche une aménorrhée centrale. C'est pas mieux. Ouais. Mais par contre, il faut avoir effectivement des analyses, des taux d'insuline parfois un peu bas pour ces femmes-là. Donc, c'est un petit peu vicieux. L'autre problématique de l'insuline, c'est qu'effectivement, elles ont des taux d'insuline hauts et on sait que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, c'est pour ça qu'elles ont souvent plus de difficultés à perdre du poids. Et d'ailleurs, tu as dû entendre avec de très nombreuses personnes que tu suis, j'imagine, que ce qu'on leur dit souvent, c'est « t'as qu'à perdre du poids ». C'est
bien sûr.
C'est
metformine plus perdre du poids.
Voilà. Bon, on permet un peu de metformine pour les aider parce que sinon, c'est un peu difficile. Hein, parce que
ouais.
Du poids, quand tu as trop d'insuline, c'est difficile. Alors, on va me dire, ah oui, mais on diminue les sucres, on perd de l'insuline. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que quand on a trop d'androgènes, ça augmente l'insuline. La réciprocité est vraie. On vient de dire que l'insuline augmente les androgènes, mais trop d'androgènes, c'est le cas chez ces femmes, augmente l'insuline. Donc, ça offre une résistance à la perte de poids.
Ouais.
Du coup, informons-les, mais arrêtons de les culpabiliser. Il n'y a rien de pire, en fait. Si on te dit d'arrêter de manger du sucre, de perdre du poids, tu penses à ça toute la journée et tu pars dedans. Enfin, c'est bien.
Ouais. Et puis, ce n'est pas forcément le plus efficace si tu ne vas pas traiter la base, quoi.
Ah bah, en plus, effectivement, il y en a pour qui ce n'est même pas le problème. Donc, effectivement,
ouais.
Ou c'est comme tu supposes avec ce que tu dis, peut-être des fois un problématique de thyroïde derrière. Donc,
Ouais. Il y a d'autres trucs que je voulais voir avec toi. Donc, on a parlé des critères de Rotterdam, c'est un peu les critères médicaux pour diagnostiquer le SOPK, donc l'hyperandrogénie quand même, les follicules et les cycles irréguliers. Mais il y a trois autres sujets qu'on associe souvent au SOPK, la résistance à l'insuline ou l'hyperinsulinémie, on en a parlé, l'ALH plus haute que la FSH et l'AMH haute.
Ouais.
Et donc, ça ne fait pas partie des critères officiels de diagnostic, mais c'est quand même des choses qu'on regarde et qui vont orienter vers le SOPK. Et donc, j'aimerais bien que toi qui nous racontes un peu ce qui se passe à l'intérieur, que personne ne voit, que tu nous expliques le sujet de la LH. Tu as commencé à en parler quand même, mais peut-être un peu plus en détail. Et après, le sujet de la MH, si ça te va.
Bah ouais, et ça va être dur de faire après parce que tout ça, c'est imbriqué en fait, en réalité.
Oui, ou les deux en même temps, vas-y.
Donc, le fait d'avoir trop de follicules à l'échographie, trop de follicules qui sont à un certain stade de maturation avancée, c'est ça qui produit trop d'AMH. Parce que ce sont ces follicules à un certain stade de maturation, au stade préantral et au stade antral, qui produit l'AMH, l'hormone antimullérienne, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est connue pour être l'hormone de la réserve folliculaire, qui est augmentée dans le SOPK, mais pas parce qu'elles ont une réserve folliculaire augmentée, mais c'est parce qu'elles ont beaucoup de follicules qui maturent comme ça.
Oui, parce qu'elle est sécrétée juste par ceux qui sont à ce stade-là. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est énorme, mais ça ne veut pas dire que la réserve derrière est énorme elle aussi.
Exactement, tout à fait. Donc, c'est parce qu'elles ont trop de follicules qu'elles ont une AMH élevée. Donc, ça, c'est un bon critère, effectivement. Quand on voit une AMH vraiment élevée, c'est fortement suspicieux. Alors, rappelons-le qu'il ne faut pas le faire doser quand on a nos règles depuis moins de 8 ans, hein, non pas chez la jeune fille. Ça devient intéressant plus tard, comme l'échographie. Et effectivement, souvent, on voit des LH élevés et on parle d'un rapport LH sur FSH à J3. Attention, je reçois plein d'analyses faites en pré-ovulatoire et les femmes qui sont affolées, « Ah, mon LH, elle a explosé !»
Mais heureusement, on est content.
Exactement.
Ouais.
Donc, c'est bien un J3 du cycle et on verra une LH plus importante que la FSH et donc avec une problématique d'hyperandrogénie qui en découle. Et donc, qu'est-ce qui va provoquer ça? On dit toujours l'insuline augmente la LH. C'est juste, hein, je ne vais pas remettre ça en question, c'est tout à fait juste, mais ce n'est pas le seul critère. Et d'autres critères, comme le manque de progestérone, on l'a évoqué rapidement. Mais il y a d'autres critères aussi, comme notamment quand on est stressé, qu'on manque de GABA, qu'on a trop de glutamate. Ça va aussi un petit peu jouer, ce n'est pas très connu. Le manque de sérotonine va un peu jouer, ce n'est pas très connu. Et un autre facteur présent dans le SOPK, c'est l'augmentation de la AMH. C'est pas connu du tout, mais l'augmentation de l'AMH augmente l'ALH. Et c'est même compliqué quand on évoque ces sujets. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse un peu plus expert. Donc peut-être que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais quoi que je sais que ton public est...
Oui, il y a beaucoup de pros qui nous écoutent. Ouais, ouais.
De femmes grand public très curieuses, des fois aussi qui m'étonnent quand je les entends.
Exactement.
Donc, c'est pas bien connu et c'est un petit peu difficile à évoquer. En fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a une préprogrammation intra-utérine de ces filles en intra-utérin, quand elles sont dans le ventre de leur maman, qui vont déjà préprogrammer leur hypophyse à fabriquer plus de LH. Et avec des risques plus tard de faire des SOPK. Et donc, c'est quand il y a une augmentation de l'imprégnation en AMH pendant la vie intra-utérine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on sait que les femmes SOPK ont une AMH plus élevée. Quand on n'a pas de SOPK, on a une AMH modérément élevée. Et lorsqu'on tombe enceinte, cette AMH diminue pour permettre la différenciation des organes sexuels masculins et féminins. Hein. Hormones antimullériennes, les canaux de Müller sont les canaux qui vont se différencier en organes génitaux féminins. Ouais. Il faut pas qu'il y ait trop d'hormones antimullériennes pour permettre la différenciation des organes antimullériennes. Et du coup, quand on a un SOPK, en plus d'avoir beaucoup d'AMH à la base, quand on tombe enceinte, déjà c'est plus difficile, mais notre taux d'AMH diminue moins. Et donc, ça veut dire que la petite fille va avoir pas mal d'AMH pendant la vie intra-utérine et l'hypophyse va être un peu préprogrammée. Elle aura plus de risques d'avoir une LH élevée. Donc, ça veut dire que une femme SOPK qui a une grossesse sans avoir pris en charge les causes d'hyperandrogénie, hein, des fois, c'est un peu boosté, un peu stimulé et sans vraiment prendre en charge les causes profondes, sa petite fille aura aussi un peu plus de risque d'avoir un SOPK. Donc, il n'y a pas que des facteurs génétiques qu'on transmet, il y a aussi tout ce qui est programmation un peu épigénétique.
Oui, il y a une hérédité qui n'est pas génétique, mais qui est plus liée à comment était la mère quand elle est tombée enceinte.
Tout à fait. Et malheureusement, je n'ai pas parlé de ça parce que ça génère de l'angoisse ou de la culpabilité des fois. Mais alors, rassurez-vous, moi aussi, j'ai fait plein de conneries pendant mes grossesses et que j'ai appris après. On n'est pas parfaite. Et en même temps, c'est pas il faut taire l'information parce que quand on le sait, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, la prochaine fois, prendre en charge les causes d'augmentation de l'imprégnation androgénique qui vont permettre de diminuer les follicules qui maturent et diminuer l'AMH, effectivement, ça va diminuer les risques de transmission non génétique SOPK, si on veut.
Et alors moi, j'aime pas les podcasts où on ouvre plein de problèmes sans donner de solutions. Mais là, je peux pas te demander des solutions non plus, puisque tu as dit tout à l'heure, il y a 100 solutions. C'est vraiment propre à chaque femme et il n'y a pas un kit ultime de j'anticipe ma grossesse en abaissant mon SOPK, quoi.
Non, c'est chercher les causes. On les a pas toutes citées, mais vous pouvez aussi. J'ai écrit un livre où il y a des informations.
Ouais, je les donnerai. Je donnerai toutes les infos à la fin.
Et donc il y a plein d'autres choses. On aurait parlé de la prolactine, qui est aussi un grand facteur de SOPK présent à 37-35% des femmes. L'inflammation, le stress peut jouer sur plusieurs petits paramètres un peu dissociés. Donc il y a plein de choses, mais effectivement, il faut chercher l'origine du problème et prendre en charge l'origine du problème. Donc s'il y a un androgène, pourquoi, et traiter l'origine du problème. Alors, ça peut être, par exemple, parce que je manque de cholestérol, par exemple. Est-ce que j'ai un manque de zinc qui pourrait aussi jouer? Est-ce que j'ai de l'inflammation? On a dit que ça jouait sur plusieurs endroits. Et pour chacune de ces problématiques, il y a des solutions concrètes. Je ne sais pas si tu veux que je développe un sujet un petit peu pour donner…
S'il y en a un qui est plus courant que les autres, par exemple, ça pourrait être intéressant pour montrer un peu l'approche derrière fonctionnelle, de détailler celui-là. Évidemment, on ne peut pas tout faire tout, mais si tu en as un où tu vois que… Pas prépondérant, mais plus fréquent, ça peut être intéressant.
Ça sera l'insuline. Après, c'est le plus fréquent, mais c'est un peu le plus connu. Donc, vous savez que quand il y a un problème d'insuline, on va aller vers une alimentation à charge glycémique modérée. Si on ne fait pas beaucoup d'activité physique, ça ne sert à rien de manger énormément de féculents. Un quart de l'assiette suffit souvent avec des aliments plutôt non raffinés, des céréales complètes et des légumineuses. Des végétaux en quantité, des bonnes graisses végétales, des protéines animales ou pas animales, mais un bon quart de l'assiette également. On va aller demander d'avoir une activité physique régulière. Effectivement, tu as parlé du myo-inositol qui peut être quand même fort intéressant dans les problématiques SOPK. Et j'ai même l'impression que même en dehors des problématiques d'hyper-insulinisme, il y a aussi fait probablement par rapport aux particularités génétiques intra-ovariennes. Et puis des fois il y a d'autres compléments dont on va pas forcément parler parce que ceux-là faut pas les prendre sans l'avis d'un praticien, mais ça peut être parfois la berbérine, hein, c'est un peu la metformine-like plus naturelle, mais rapprochez-vous d'un professionnel pour ça et checker la thyroïde, parce que s'il y a un problème d'insuline, peut-être que derrière il y a un problème de thyroïde et vous vous en sortirez pas si vous ne prenez pas en charge le problème profond. Et donc, quand est-ce qu'on peut suspecter un problème de thyroïde? D'abord, il y a des signes cliniques comme la prise de poids ou difficulté à en perdre, la fatigue, la perte de cheveux assez diffuse, la frilosité qui est quand même un indicateur assez évocateur. Des fois, on a la peau sèche au niveau des tibias, on peut avoir les doigts gonflés un peu le matin, la voix un peu rauque, les yeux un peu gonflés.
La constipation.
Exactement, tout est au ralenti, donc constipation, effectivement, ce genre de signes cliniques. Et après, il faut faire un bilan thyroïdien. Effectivement, je pense que ça mériterait un podcast complet. Ça peut être.
On en a fait un avec le docteur Assouli, mais on pourra en faire un sur plus le lien SOPK hypothyroïdie. Ça pourrait être hyper intéressant aussi. Là, on va dans de la niche, mais je sais que moi, ça me passionne personnellement. Toi, j'en doute pas, mais plein de gens aussi, en fait, beaucoup plus qu'on l'imagine.
Et juste un petit mot, parce que pour la prolactine, c'est intéressant quand même de savoir, on n'en parle pas énormément, mais Lara Brydon, elle en parle aussi quand elle parle. Il me semble hein, qu'elle parle du SOPK surrénalien, si je ne me trompe pas. Mais
ouais, c'est possible.
Il faut comprendre qu'il n'y a pas que les ovaires qui produisent des androgènes. Les surrénales savent aussi le faire. Elles produisent la DHEA, qui est une pro-hormone, mais qui peut se convertir en testostérone. Et du coup, effectivement, un des facteurs qui augmente la DHEA, qui augmente les androgènes surrénaliens, c'est l'excès de prolactine, qui est présent quand même chez 35% des femmes SOPK. Ouais. C'est intéressant de savoir que ce qui augmente la prolactine, bah, notamment, il y a le stress. Il y a certains médicaments, alors il peut y avoir des maladies, des choses, hein, adénome hypophysaire à vraiment rechercher au niveau médical par une imagerie. Mais donc, comme je disais, en fonctionnel, on va chercher le stress. L'hypothyroïdie peut augmenter la prolactine. Donc, vous voyez, comme tout peut se croiser, j'ai une hypothyroïdie, j'ai trop d'insuline et j'ai une hyperprolactinémie, c'est double peine ou triple peine. Ouais. Et il y a aussi l'excès d'œstrogène qui augmente la prolactine, le déficit de progestérone qui augmente la prolactine. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses à rechercher, un peu dans tous les sens parfois, mais qui fait que c'est jamais monofactoriel. Parce que même s'il y a un seul problème source à l'origine, ça en entraîne d'autres. Donc, des fois, le traitement de l'origine peut suffire pour tout traiter ce qu'il y a en aval, mais pas toujours.
Ouais, et la thyroïde est quand même très souvent impliquée dans toutes ces problématiques hormonales, quoi.
Oui, parce qu'en plus, si elle n'est pas à l'origine, elle peut être secondaire. Parce que quand un SOPK, on disovule, donc on n'a pas beaucoup de progestérone, et le manque de progestérone peut altérer un peu la fonction thyroïdienne aussi, même si ce n'est pas le premier facteur, hein, mais ça peut contribuer également.
Ouais, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié ?
Je pense qu'on a été assez exhaustif sur pas mal de choses. Donc, le message clé quand même, enfin, peut-être, c'est vraiment de checker quand même toutes les dysfonctions pouvant augmenter les androgènes et ne pas se cantonner au premier curseur rouge qu'on trouve. Parce qu'il y a souvent rien dans le rouge, hein. Il y a souvent plein de petits trucs dans le orange. Ouais. Même si on trouve un truc rouge, bien checker tout le reste quand même aussi.
Ouais, c'est ça. Avoir cette vision un peu globale qu'on a très peu. Et moi, j'ai fait plusieurs épisodes avec des médecins fonctionnels et c'est vrai que c'est toujours passionnant de parler de cette approche globale et avec toutes ces corrélations parce que la médecine aujourd'hui qui est incroyable et on a extrêmement besoin, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est très silotée. Tu as l'endocrino qui va regarder tel sujet, le gynéco un autre, etc. Alors qu'en fait, souvent, c'est on est sur des petits nœuds qui se forment entre deux spécialités. Et si on reste dans le silo, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que je trouve passionnant sur l'angle du SOPK d'avoir toutes tes explications très détaillées sur ce sujet-là. Mais évidemment, ça s'applique à plein d'autres thèmes de la fertilité, mais pas que de la santé plus globalement, quoi.
Tout à fait.
Génial. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin ? Tu l'as commencé, mais un message que tu veux faire passer ? Je mettrai ton livre en description.
Très bien.
Ça s'appelle Troubles hormonaux, reprenez le pouvoir, c'est ça, hein ?
C'est ça, tout à fait.
Ouais.
Et d'ailleurs,
je mettrai le lien.
D'écrire un deuxième sur le SOPK, qui ne va pas arriver tout de suite, mais voilà, il faut.
Ah, bah tu vois, je ne savais même pas.
J'en parle pas beaucoup, effectivement, mais ouais. Il est en cours de rédaction.
Ok, et tu sais quand est-ce qu'il sortira ?
Absolument pas.
Ok, donc je mettrai toutes les infos en description de ton centre de formation aussi.
Merci,
parce que moi j'adore t'écouter et je pense que voilà, pour certains ce sera peut-être très technique, mais je pense que pour plein de gens ça ouvrira des portes. Et surtout peut-être qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui t'ont écouté, qui se sont dit « mince c'est moi ça » ou « ça ferait du bien », d'essayer d'aller trouver des praticiens formés pour les accompagner.
Tout à fait, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de former des praticiens, des professionnels de santé qui vont pouvoir… suivre toutes ces femmes dans la thématique, c'est chouette. Et puis, ça va dans le sens du travail que tu fais, Lorraine. Merci pour tout ce que tu as mis en place aussi. C'est génial, c'est formidable.
Génial. Merci à toi. Eh bien, merci du fond du cœur. Et on sera d'autres épisodes, du coup, sur toutes les portes qu'on a ouvertes là.
Merci. Au revoir à tous.
J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets en description les références dont on a parlé, notamment Lara Brydon et ses types de SOPK. Et puis, bien sûr, le livre de Guénaëlle. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce qu'on s'est dit, s'il y a des choses que vous voulez qu'on creuse davantage. Vous le savez, c'est toujours chouette de mettre une note, une étoile, de s'abonner à YouTube, à votre plateforme d'écoute de podcast. Ça nous aide beaucoup à continuer à développer ce format qui me tient très à cœur parce que voilà, avoir le luxe de passer 45 minutes à travailler en profondeur sur un sujet comme ça, ben moi je trouve ça génial. J'y tiens très fort à ce podcast et j'espère qu'on va pouvoir continuer à le développer. Donc merci de nous accompagner là-dedans, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et moi je vous embrasse bien fort.
Émancipée.
Émancipée.
Émancipée.